Et notre invité ce matin dans le 8h30, Alain Sanchez, bonjour.
Bonjour madame.
Maire de l'Argentière, l'ABC, demain, ce sera la première mobilisation, la grève contre la réforme des retraites. Est-ce que vous allez vous joindre au cortège? Qu'en pensez-vous de cette réforme des retraites qui prolonge le nombre d'années de cotisation jusqu'à 64 ans?
Bon, alors cette réforme des retraites est pas vraiment ce qu'on attendait. L'allongement de l'âge de départ à la retraite n'est pas une bonne solution pour moi. J'ai par exemple des amis qui sont charpentiers. On peut pas s'amuser à 64 ans à être encore sur les toits à travailler comme on peut le faire à 20 ans.
Mais c'est quoi la bonne solution justement? On a du mal à entrevoir quand même certaines pistes.
Alors déjà, je pense que l'État devrait un peu obliger les entreprises qui ne payent pas leurs cotisations URSSAF, et en plus c'est souvent des entreprises du 440, déjà à régler leurs comptes, et avant de venir taper peut-être sur la population qui elle paye gentiment pour sa retraite.
Alors c'est vrai qu'on entend très souvent dans les pistes alternatives, en tout cas avancées, peut-être s'adresser un peu plus du côté des entreprises. Cependant, on entend très peu se tourner du côté des personnes bénéficiaires du RSA. Pour autant, ce sont des personnes qui ne cotisent pas forcément.
Oui, alors c'est vrai, mais bon, ces personnes sont quand même en situation précaire.
Donc, mais éloignés de l'emploi, est-ce que là, justement, il n'y a pas un effort supplémentaire à faire pour les ramener?
Alors oui, bien sûr, il y a un effort supplémentaire à faire pour les ramener, mais je veux dire, c'est pas en allongeant le temps de travail que l'on va régler les problèmes. Les postes qu'occupent des personnes de 64 ans, enfin 60, 64 ans ou moins, mais en fin de carrière, pourraient être libérés pour justement des jeunes qui arrivent sur le monde du travail, pour des personnes peut-être auxquelles il faudrait remettre le travail au centre de leur vie. Voilà.
Alors parlons d'un autre sujet. Le 16 décembre dernier, vous avez eu une réunion avec la sous-préfecture, celle de Briançon, autour d'un sujet on ne peut plus d'actualité, la crise énergétique. Quel est l'impact dans votre commune et quelles solutions concrètes vous a apporté ou vous apportera l'État?
Alors, l'État ne nous a pas apporté de solution, si ce n'est de nous prévenir qu'il fallait éteindre les lumières, qu'il fallait baisser le chauffage et faire des économies. Ce qu'on savait, puisque depuis belle lurette, nous éteignons l'éclairage public la nuit. On va encore abaisser le temps d'allumage de cet éclairage public. Voilà. Des solutions concrètes, il n'en a pas apporté. Après, il faut voir maintenant sur les nouvelles aides qui vont arriver, en particulier le fonds vert, l'État est vraiment à la hauteur de ce qu'ils annoncent en termes de transition écologique.
Alors justement, ce fonds vert, je vais en parler, vous avancez un peu ma question, un fonds de 2 milliards d'euros mis en place par l'État pour la transition écologique, vous allez saisir la balle au bon, puisque vous allez demander des subventions, et notamment pour rénover les menuiseries du bâtiment de la gendarmerie. Ce sera en discussion demain lors du conseil municipal.
Oui, alors tout à fait. Ce fonds vert donc nous permet de financer des travaux à caractère, on va dire, écologique, mais pas tous, pas que, puisque ce fonds vert ne permettra pas de financer des panneaux photovoltaïques pour l'autoconsommation, par exemple.
Pourquoi? Ça ne fait pas partie du cahier des charges.
C'est pas pris en compte. C'est pas dans les actions. C'est pas dans les actions du fonds vert. Voilà.
Donc le fonds vert, c'est bien, mais ça pourrait aller plus loin pour vous?
Ah ben oui, ça pourrait, bien sûr, ça pourrait aller bien plus loin. Après, c'est quand même une aide qui va être vraiment très importante au niveau du département. Donc voilà. Alors nous, nos dossiers, justement, on passe demain une délibération pour demander du fonds vert sur la rénovation des huisseries de la gendarmerie, tout simplement pour être prêt dès que le décret d'application va sortir et qu'on pourra déposer sur la plateforme de demande notre demande, et bien pour être prêt dans les starting blocks à pouvoir le faire.
Alors l'Argentière, la BSA a bénéficié d'une autre aide de l'État, le programme Petite Ville de Demain. Quel bilan vous en tirez aujourd'hui et vers quoi partir demain ? On sait qu'il y a beaucoup d'axes qui sont évoqués, améliorer le cadre de vie des habitants, aménager les centres-bourgs, mobiliser les logements vacants, attirer, améliorer l'attractivité des locaux professionnels. Alors quel bilan et quelle piste ?
Alors, le bilan, c'est que pour l'instant, le programme Petite Ville de Demain, il y a beaucoup d'études. Alors, c'est vrai que on voit les gens voient Petite Ville de Demain qui nous apportera rien dans l'immédiat. Moi, je pense que Petite Ville de Demain, donc on a fait l'étude de programmation. On a par exemple listé tous les logements vacants, les logements insalubres, et dans un deuxième temps, dès que l'on va signer l'accord de l'ORT, c'est-à-dire l'opération de revitalisation des territoires, on va pouvoir lancer une rénovation, enfin les rénovations des bâtiments anciens. Donc avec des aides qui seront par l'ANA, par le SOLILA, ou par la commune, ou par la communauté de communes.
En fait, si je vous résume, le programme Petite Ville de Demain, ça n'est pas une aide qui est chiffrée, c'est une aide de logistique qui permet de mieux se connaître en tant que commune pour savoir vers où aller demain.
Tout à fait, parce que en fin de compte, nous, dans nos petites villes, on n'a pas les moyens techniques d'avoir des études qui vont nous permettre de nous concentrer sur tel ou tel programme ou telle rénovation. Oui. Donc, on est obligé à chaque fois de passer par des cabinets d'études et cette aide de l'État sur Petite Ville de Demain, nous aide dans cette démarche.
Alors, l'Argentière va bientôt devenir un campus européen étudiant. Pas n'importe lequel, celui de la Haute École du Bois et de la Forêt. Un campus européen qui arrivera aussi sur Embrun. L'offre qui sera proposée, elle sera complémentaire à ce qui existe déjà au niveau européen. Elle va surtout répondre à un enjeu, c'est le changement climatique. En fait, on va former sur l'Argentière, l'ABC, les experts de demain.
Alors, oui. Alors déjà, elle n'existe pas sur l'Europe. Elle existe en France par deux écoles, donc Nantes qui a une école sur le bois et Épinal. Voilà. Après, par exemple, vous prenez le cas de l'Italie. L'Italie n'a pas de diplôme supérieur, un bachelor dans l'activité bois. Et d'autres pays aussi. Donc c'est pour ça que l'idée de faire cette école européenne avait du sens puisque ça nous permettait de nous rapprocher déjà de nos voisins européens avec une ressource qui va être demain peut-être une des ressources phares du changement climatique. Et voilà, donc déjà ça c'est ça. Après l'école du bois va être sur deux pôles, c'est-à-dire le bois forêt sur l'Argentière qui va permettre d'avoir les futurs fabricants, on va dire, dans tous les domaines du bois, et sur la commune d'Embrun, où là il y aura un pôle architecture avec vraiment aussi bien l'architecture de montagne que la construction bois, parce que la construction bois est complètement différente d'une construction classique, béton.
Ouais. En tout cas, l'ouverture est espérée pour 2026, et on parle notamment d'une résidence universitaire, de 3 laboratoires, 2 ateliers, un amphithéâtre. Alors, ce n'est pas rien, en effet, comme projet sur le territoire haut-alpin. Vous allez demander, lors du conseil municipal, à l'agence de l'eau, une subvention pour rénover le réseau d'eau potable. Il est dans quel état ce réseau aujourd'hui ?
Oui, alors ce réseau est suivi et est en bon état. Hein. C'est suite au schéma directeur qui a été élaboré en 2015. On avait défini les secteurs les plus fuyants. Donc là, on est sur la tranche 3 déjà. On a fait pas mal de travaux, hein, puisque la conduite d'alimentation directe depuis le pont du Sapé avait été refaite. Enfin, on a fait les réseaux d'eau du hameau de l'Échaillon, de la Blachière, du Cré, de la Bourgeat, des Grolières. Enfin, voilà. Et l'an passé, nous avons réalisé la baie Haute. Et cette année, nous faisons encore une tranche de travaux, puisque nous allons passer sur les travaux du plan Les Hauteaux et les secteurs fuyards qui sont de ce côté-là.
Vous estimez le taux de fuite sur le réseau aujourd'hui? Alors, c'est difficilement estimable. C'est difficilement estimable. Non.
On aura le rapport. On aura le rapport du réseau qui va nous sortir au mois d'avril.
Voilà. Vous le saurez plus précisément. Voilà. Dernière question. Une autre demande de subvention dans le cadre du Fonds de solidarité pour des travaux d'urgence de la falaise Saint-Roch. Qu'est-ce qui se passe du côté de cette falaise?
Alors. Qu'est-ce qui se passe? Lors de la nuit du 18 décembre, nous avons eu un éboulement sur la falaise Saint-Roch. En fait, c'est sur la rue du Sapé et au carrefour de la rue du Sapé et de la rue de la Blachière. Suite à cet éboulement, donc nous sommes rendus le 18 au matin. On avait constaté de nombreux blocs, et surtout on avait un bloc très important, à peu près 15 mètres cubes, qui était resté suspendu et menaçant de tomber sur la voie. Donc bon, dans un premier temps, on a pris un arrêté de fermeture de la route, et puis après il a fallu le dynamiter. Parce que l'entreprise Roch Aventure est intervenue au départ pour essayer de purger cette falaise, et ce bloc ne partait pas. Donc il a fallu faire appel à un expert en spéléologie, puisque c'est avec le comité départemental de spéléologie des Hautes-Alpes qui nous a aidés sur cette affaire pour dynamiter ce bloc. Voilà, ce bloc a été dynamité donc le 29 décembre. Et maintenant, nous sollicitons l'aide du département pour ce fonds d'urgence.
Très bien. Merci à vous, Alain Sanchez, d'avoir été avec nous ce matin, maire de L'Argentière, l'ABC.